Le thème aujourd'hui du message, c'est la royauté de Dieu. J'ai pris le psaume 145, je prendrai le psaume 45 et le psaume 99. Pour le moment, je suis dans Exode, au chapitre 34, versets 5 à 7. Dans ces versets, nous voyons que l'Éternel, le Christ, descend sur la nuée, comme il viendra pour reprendre l'Église, l'enlever, et il va auprès de Moïse et il lui révèle la nature et le nom de Dieu le Père. Et sa majesté, Dieu le Père. Et je disais que la miséricorde de Dieu est immense parce qu'il aurait fini, il aurait bientôt fait avec nous s'il voulait, s'il était coléreux comme nous le sommes. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité, comme dit David dans les psaumes. Les fondements de la terre sont bonté et fidélité. Rien ne détruira la terre. Rien. Car les fondements de la terre sont bonté et fidélité. Les destructeurs de la terre seront détruits. Apocalypse chapitre 12. C'est peut-être pour bientôt. Alors, qui conserve son amour, verset 7, jusqu'à 1000 générations, donc de manière infinie, sans discontinuer, fidèlement, qui pardonne l'iniquité, donc les péchés commis volontairement, alors qu'on est prévenu, on a été enseigné à ce qui était le bien et le mal, soit par la Bible, soit par notre conscience. La rébellion et le péché, qui pardonne la rébellion et le péché, vous imaginez, hein? Quel réalisme dans la parole de Dieu! Mais qui ne tient point le coupable pour innocent? Eh oui, évidemment! Lorsque nous péchons, eh bien, on a une responsabilité et il faut se présenter devant Dieu pour demander pardon. C'est pas tout de faire l'andouille et faire comme si de rien n'était. Nous ne sommes pas innocents. Il faut demander pardon pour être innocenté sous le sang de Jésus et par la croix rédemptrice. Alors, il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Donc, à côté des 1000 générations de la miséricorde infinie, cette punition de 3 ou 4 générations, c'est un petit grain de sable. C'est un petit grain de sel. Et donc, il ne faut pas accentuer ce verset. Or, à l'époque de Jésus, quand Jésus rencontre l'aveugle-né et qu'il fait de la boue avec sa salive et qu'il le guérit à la piscine de Siloé, qu'est-ce qui se passe? Ils disent au gars, tu es né dans le péché et tu viens nous faire la leçon. C'est à cause des péchés de tes parents que tu es aveugle. Cet homme-là, il te guérit, mais c'est un fils du diable. C'était normal que tu restes aveugle. Et pensez aussi, évidemment, à ce paralytique à l'entrée du temple, dans les Actes des Apôtres, aîné. C'était normal qu'il soit paralytique toute sa vie. C'était sans doute que ses parents, ses grands-parents avaient péché. C'était comme ça, et puis c'est tout, point à la ligne. C'était Dieu qui l'avait voulu, donc que ce soit comme ça. Mektoub, c'est écrit. Bon, finalement, avec un raisonnement pareil, on devient un dur. On devient un dur, un insensible, et même un haineux. Et comprenez bien pourquoi Jésus dit à ce jeune homme qui vient le trouver pour avoir la vie éternelle, il raconte l'histoire du bon samaritain. Cet homme sur la route qui est abandonné, qui est meurtri, qui est en train de mourir, un prêtre passe, le lévite passe, et ces gens sont durs. Pourquoi? Parce que bon, si il est comme ça, si ça lui est arrivé, c'est que c'est normal, c'est que Dieu l'a voulu. Il faut faire attention, ça existe beaucoup sur cette terre. Cette interprétation de ce verset est diabolique, est perverse. Elle justifie le mensonge, la dureté, le légalisme. C'est pour ça que Esaïe avait dit, à un moment donné, dans ses prédications et dans son écrit, il avait dit, il viendra un temps où vous ferez des préceptes sur préceptes, des règles sur règles. C'est Esaïe 28, verset 10, et encore au verset 13. Pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là,
Et c'est une alliance avec le séjour des morts, au verset 15. Et juste après, Ésaïe annonce le Christ. Voici, j'ai mis pour fondement Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas.
Vous comprenez pourquoi Jésus a dit qu'il fondait une église dont les portes résistent au séjour des morts. L'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, se fonde sur la miséricorde de Christ à la croix, sur sa grâce toute puissante pour sauver les pécheurs. Elle ne se fonde pas sur le légalisme, sur les esprits tordus qui tordent la Bible. Le prix de la grâce qui a été acquis à la croix par Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était saint, qui est Dieu, est précieux, immense. C'est un cadeau immense pour nous, c'est une miséricorde immense. Que le Fils se donne lui-même et que le Père aussi donne son Fils. Repensez à Abraham et Isaac, ils étaient tout à fait d'accord ensemble. Et Dieu avait dit à cet endroit-là, dans Genèse 22, mais je pourvoirai, Yahvé j'irai, je pourvoirai. C'est Christ qui a pourvu. Il a été condamné au même endroit que Isaac et Abraham avaient voulu faire un sacrifice. Ils cherchaient après l'agneau, ils ne le trouvaient pas. Ils ont voulu se sacrifier. Le fils voulait se sacrifier avec l'accord du père et son propre accord. Et un mouton a été donné. Vous voyez, la miséricorde de Dieu est immense. Et c'est elle qui est le fondement de l'Évangile. Donc le roi est un roi miséricordieux et tout-puissant en même temps, qui ne veut pas qu'on fausse sa sainteté. Il est saint, pas un seul de nos péchés ne rentrera au ciel. Il faut donc être sous la miséricorde de Christ et être justifié, c'est-à-dire pardonné gratuitement par Jésus et par le Dieu le Père, à cause de l'immense miséricorde de Dieu. Aucun de nos mérites ne permet de rentrer en présence de Dieu le Père et du Fils. Maintenant que nous allons reprendre le psaume 145, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Ça reprend le même fondement biblique que Exode 34. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Envers tous. Même le pire sur la terre, Jésus veut le sauver. C'est pas forcément qu'il sera sauvé. Ça c'est clair. Je suis en relation pour le moment avec un homme au téléphone, j'en ai plusieurs comme ça, un homme qui a lu la Bible et qui boit, mais d'une façon abominable et qui a une super intelligence et qui a martyrisé sa femme et ses enfants et qui est dans une déchéance profonde. Va-t-il saisir la miséricorde que Christ lui accorde à la croix? Vous voyez, sa famille m'a demandé de le contacter. Je suis régulièrement au téléphone avec lui, une demi-heure, 20 minutes, trois quarts d'heure. Pourquoi? Pour qu'il, non pas qu'il se vante de connaître la Bible, mais de savoir qui est Dieu réellement, et quelle est sa miséricorde, et quelle est sa justice, et qu'est lui qui l'abandonne. Sa nature pécheresse, qu'il la confesse. Et c'est pas évident, les amis. Je ne suis pas un faiseur de miracles, même au téléphone. Et je sais qu'il faut une décision du pécheur de se repentir et d'accepter la miséricorde divine pour lui, à la croix. Alors, continuons, verset 10. « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel,
et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Donc ici, dans ce psaume, nous avons une prophétie, clairement, sur le règne de Christ sur la terre. Sur la terre, en même temps, avant que ce règne soit instauré visiblement et qu'il n'y ait que les ceux qui ont répondu à l'appel qui soient avec lui, il y a aujourd'hui tout de même un règne pour ceux qui ont accepté l'œuvre de l'Esprit Saint en eux, l'autorité de la parole de Dieu et le sang de Jésus à la croix. Ce règne est déjà acquis pour eux, mais il sera visible, démontrable, manifesté et organisé sur la terre quand Christ reviendra. Et continuons à lire ce psaume, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, les yeux de tous espèrent en toi, tu leur donnes la nourriture en son temps, tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Cela, on le trouve dans le Cantique d'Anne, un premier livre de Samuel, chapitre 2. On le trouve dans le Magnificat, dans la prière de Marie. On le trouve, bien sûr, dans les paroles de Anne et Siméon. Et dans le cantique de Zacharie, dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les injustices que je dis, qui ne sont pas accidentelles, qui sont organisées sur la terre, qui sont voulues par l'homme, toutes ces injustices vont être brisées. Cette iniquité va être brisée. Et les pauvres auront à manger. Ils seront rassasiés. Quand Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, c'était le signe annonciateur, la préfiguration de son royaume. Et il y avait en abondance 7 corbeilles de pain et de poissons en surplus. Ça veut dire qu'il y aura assez pour tout le monde. Mais regardez bien, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan demande à Jésus de changer les pierres en pain, pour faire un bienfaiteur idéaliste, eh bien, Jésus refuse. Il ne s'agit pas de commencer à faire le royaume sans l'accord du Père. Il ne s'agit pas de commencer à faire le royaume avant que le sang de Christ ait coulé à la croix, que l'Esprit Saint soit donné, que l'Évangile soit annoncé, que Israël soit converti, et toutes les nations. Il ne s'agit pas d'établir un royaume avec une justice divine sur terre, avant que le péché soit mis au bac. Donc, frères et sœurs, ce temps de soulagement, de rafraîchissement du monde, de rénovation du monde, nous attend. Et il est formel, Dieu l'a décidé. Il aura lieu. Je reprends le verset 17, maintenant, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est près, c'est-à-dire à côté, avec. Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, évidemment, celui qui est vraiment un enfant de Dieu, qui réellement a donné son cœur, vit spirituellement cette proximité. Et il s'adresse à Jésus dans la proximité spirituelle. Par le Saint-Esprit, il communique avec Jésus. Et Jésus communique avec lui. Et l'éclaire lui donne une intelligence qu'il n'avait pas avant. Lui donne des prières qu'il n'avait pas avant. Lui donne de la sagesse qu'il n'avait pas avant. Et s'il lui fait encore des péchés, lui donne la honte et la correction qu'il faut, alors qu'avant, il continuait sans en rendre compte. Avec le Saint-Esprit, nous rougissons de nos péchés, et puis nous sommes amenés à changer. On n'a pas bonne conscience quand on pêche, quand on a reçu le Saint-Esprit. Et donc, on se rend compte qu'on est en infraction, c'est-à-dire dans une mauvaise relation avec Dieu, et donc on revient à Dieu avec un cœur repentant, et on reçoit de Dieu les bienfaits de sa grâce, de sa miséricorde, pour changer. C'est pour ça qu'il est dit au verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent,
pour être sanctifié de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, et il détruit tous les méchants. Ah, ça, évidemment, ça fait partie de cette colère dont je vous ai parlé en lisant Exode chapitre 34, je pense. Que ma bouche publie la louange éternelle, que toute chair, donc tout humain, bénisse son saint nom à toujours, à perpétuité. Il y a l'idée ici, au verset 20, que Dieu garde tous ceux qu'il aime, donc ça c'est l'enlèvement de l'Église, si vous voulez, et le règne de Christ, et il détruit tous les méchants, le jugement dernier. Eh oui. Nous allons aller dans le psaume 45. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était la royauté de Christ. Je pense qu'il faut, dans la décade qui vient de commencer, s'adresser à Dieu et à Jésus-Christ en considérant leur royauté. Très proche. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Donc, sous l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit, David est inspiré. Je dis, mon œuvre est pour le roi. C'est Dieu, bien sûr. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et quand il dit mon œuvre est pour le roi, c'est pas pour lui-même. Ou alors c'est un fou furieux. C'est un fanatique, c'est un narcissique, c'est quoi, un paranoïaque. Mais David n'était pas un malade. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et finalement, c'est vrai que tous ces psaumes de David sont formidables. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Donc, cette grâce répandue sur les lèvres, vous pouvez retrouver ce texte dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. C'est formidable, cette description de Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Je ne pourrais pas y aller aujourd'hui. Ensuite, « Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. » Ah ah. Est-ce que ce n'est pas cela, dans l'Apocalypse, quand Jésus est sur le cheval blanc avec son épée et qu'il brise les méchants, il brise les faux pouvoirs, les dominations. Je vais essayer de vous le trouver tout de suite. Voilà. Dans ma Bible qui est fort abîmée. Apocalypse 19. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 12. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, celui de la croix, bien sûr, de son sacrifice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Vous pouvez lire le restant du chapitre 19, c'est formidable. Donc, cette révélation faite à Jean dans l'Apocalypse est la même, fondamentalement, que celle qui est faite à Anne lorsqu'elle loue le Seigneur, 1 Samuel chapitre 2, et à Marie dans le Magnificat. Et dans le psaume 45, nous voyons que David a eu la révélation de l'avenue de Christ dans sa gloire. Je continue dans le verset 4. « Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » Donc, vérité, douceur et justice. Quand vous regardez bien Romains 14, 17, « Le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et amour, joie selon Saint-Esprit. » C'est pas ça? Et le fondateur du royaume de Dieu, c'est Christ tout de même. Et le distributeur du Saint-Esprit pour vivre les vertus de Christ, le distributeur, Dieu est le Père, il donne le Saint-Esprit pour vivre les vertus de Christ, être participant de la vie divine en Christ. Alors, Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Donc, Sédex et sainteté. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. J'admire parfois, j'étais sur un chantier il y a très longtemps, et j'étais pas encore pasteur, j'avais pas été encore entrepreneur, j'étais encore prêtre ouvrier, et en 76, 76, il faisait chaud, mais chaud. On maçonnait un énorme mur de pierre de taille à l'entour d'un terrain de football. C'est long, vous savez. On était 45 ou 50 à travailler, et je me rappelle qu'il y avait 24 manœuvres pour fournir tout le mortier, parce que dans les murs de pierre, il faut beaucoup de mortier, amener les pierres, et on taillait les pierres, elles étaient chaudes comme des fers à repasser. Et il y avait un Marocain qui chantait. À côté de moi, il était à côté de moi, je n'ai pas fait exprès. J'écoutais les chants et puis je changeais les voyelles pour voir dans ses paroles. Et je me dis, mais c'est comme dans l'hébreu. Et il parlait de la miséricorde divine. Alors tout d'un coup, je lui ai dit, écoute, Mohamed, tu es en train de louer la miséricorde divine. Tu en as besoin? Tu y crois? Oui? Eh bien, moi aussi, j'y crois. J'y crois beaucoup, Mohamed. Elle s'est révélée. Elle s'est révélée avec Jésus. Tu sais bien que je suis chrétien, elle s'est révélée, oui. Un peu plus tard, il appelait tout le monde frère, et je lui dis, mais pourquoi t'appelles tout le monde frère? Tu penses ce que tu dis? Et puis, ça c'est un finot. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre les autres pour des idiots. Il me dit, et toi, qui es-tu pour me poser une question comme cela? Alors on a dû s'expliquer, on s'est bien connu après. Qui es-tu pour poser une question pareille? Évidemment, ça n'a pas toujours été rose, parce que c'était un grand opportuniste, tout en étant croyant, un très grand pécheur. Un très grand pécheur que j'adorais, que j'aimais bien. Je pense toujours à lui, j'espère le retrouver avant qu'il ne décède et qu'il soit sauvé par le sang de Christ. Dieu le remettra sur le chemin s'il le veut. Alors, pourquoi je dis ça? Verset 6, « Tes flèches sont aiguës, des peuples tombleront sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Quand on est dans le péché, tel que cet homme que je viens de citer, on est ennemi du roi. On en soit conscient ou pas, si on en fait qu'à sa guise, tout en disant qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, on est ennemi du roi. Et des flèches perceront le cœur des ennemis du roi. C'est-à-dire, je pense déjà qu'aujourd'hui, des paroles de Christ, des évangiles, peuvent percer des cœurs. Il y a des événements qui peuvent percer des cœurs. Et le corona a déjà percé des cœurs. Je ne pensais jamais au mois de mars faire des messages 4 fois par semaine, en comptant le dimanche dedans. Et puis, 4 fois, en plus, il y a le Pakistan. 2-3 fois par semaine, parfois. J'ai jamais pensé. Je n'avais pas un smartphone. Je m'en fichais de tous ces engins. Puis quand j'ai vu que les chrétiens étaient isolés, que je ne pouvais pas les voir au début, etc. Après, j'ai eu une permission spéciale de la police, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais m'acheter un smartphone et je m'y mets. Voilà. Je m'y suis mis, c'est ainsi qu'on peut se communiquer. Et figurez-vous qu'avec ce smartphone, je ne me rendais pas compte de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, nous sommes plus de 45 là. Et sur le site de l'Église. Et bien d'autres serviteurs de Dieu ont fait la même chose. Il y a eu une recrudescence d'intérêt pour l'amour de Dieu, pour la soif de Dieu. Et ce n'est pas qu'on a rempli les églises. Surtout, c'est que le ciel soit rempli de votre présence. De votre présence. Parce que vous avez été fléchés, percés par les flèches du roi. Chers amis, j'insiste, la parole de Dieu lance des flèches. Elle ne laisse pas le cœur de l'homme intact, dans sa perversion, dans une espèce de, d'inconscience ou de m'as-tu vu, de m'as-tu vu, de, je ne sais pas comment dire, de présomption. La présomption de l'homme est très grande depuis le péché d'Adam et Ève. Alors, je vous lis ces versets dans Hébreux, chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, la flèche, c'est comme l'épée, hein. L'épée romaine à deux tranchants, ça rentrait dans la choucroute jusqu'au bout, hein. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Chers amis, le psaume 45 est formidable, vous ne trouvez pas? Alors je reprends le verset 6 du psaume 45. « Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Évidemment, sainteté, équité, aucun mensonge, hein. C'est un royaume saint que Jésus veut sur terre. Mais ce n'est pas une dictature, hein. C'est quelque chose qui se vit dans la paix, la justice, la douceur, la grâce. Regardez le verset 5. Oui. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice. Par de merveilleux exploits. Lequel? Le sacrifice de Christ, sa résurrection et son action de salut dans vos cœurs, dans mon cœur, dans des millions de cœurs. Voilà les merveilleux exploits de Dieu. Ainsi, vous comprenez mieux le verset 6, les flèches sont aiguës et touchent en plein dans le mille. Alors, allons au verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, Sédec, la sainteté. Tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ô Dieu, ton Dieu. Alors, je vais vous traduire. Ô Christ, ton Père t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, c'est-à-dire sur tous les autres droits du monde, sur tous les chefs religieux, sur toutes les autorités, dominations, etc. C'est toi sur lequel Dieu, quand il instaurera son royaume, versera de l'huile. Le croyez-vous? Le grand roi est déjà préparé. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tout événement. Eh bien, les amis, les mages, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à la crèche? C'est la préfiguration. C'est l'annonciation. Quand cette femme a versé du parfum sur les pieds de Jésus, une autre, dans un autre récit, sur la tête, c'est la préfiguration. C'est la venue de cette sainteté remarquable, de cette odeur de sainteté qui va rentrer dans le monde. Il y a des fleurs, si vous allez chez les fleuristes, il y a parfois des fleurs qui sont incroyables par leur parfum. Incroyables. C'est exquis, ça se sent dans toute la pièce. Et d'autres, ça ne sent rien. Eh bien, Christ, par rapport à tous les autres droits, à toutes les autres autorités, est rempli de l'odeur de sainteté, du ciel. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'Ophir. La reine, pour moi, c'est Jérusalem, et c'est Israël. Et les filles de rois, c'est toutes les autres nations. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc, arrêtons avec nos racines humaines, patriarcales, etc. Allons dans le spirituel, quittons le règne animal, laissons-nous transformer par la sainteté de Christ et par le Saint-Esprit. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Voulez-vous rendre des hommages à votre roi dès avant qu'il vienne? Préparez-vous. N'allez pas démarrer dans la louange et les hommages envers Christ quand il arrive, Comment vous allez vous y prendre? Vous allez bégayer? Vous allez avoir peur, vous allez être confus, rouge de honte? Non. Aujourd'hui, tous les jours, dans la chambre, dans l'auto, dans le jardin, à table, dans l'église. Qu'on ait des tuiles, qu'on ait le Covid ou pas. Je vous laisse lire tout le reste du psaume, parce que le temps est compté. Psaume 99. 99 pour les Belges qui m'écoutent, 99. Oui, non. Non, c'est le psaume 89, excusez-moi. 89. C'est le psaume 89. Oula. Vous savez, je vois que l'âge avance. Hein. Des fois, il faut bien accepter. Psaume 89. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. » Donc, sa miséricorde, Z. « Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Vous voyez les hommages? Les hommages. Pas des fromages. Les hommages. La louange. Or, David... C'est 1000 ans avant Jésus. C'est 3000 ans maintenant. C'est un bel exemple de celui qui sait attendre la venue du roi et qui compte sur lui, qu'il est certain de ses promesses. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Donc, c'est clair. Lisez Apocalypse, chapitre 4 et 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermerai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Il est annoncé ici, clairement, qu'une postérité à David sera éternelle. Il est annoncé clairement. C'est ainsi qu'Anne et Siméon, dans le temple, quand ils voient arriver Joseph et Marie et le petit, Jésus, ils le reconnaissent tout de suite. C'est ainsi que le cousin Jean-Baptiste, qui a rencontré Jésus souvent au bord du lac, tout d'un coup, à un jour bien précis où Dieu l'a décidé, quand Jésus est poussé à venir se présenter devant lui dans l'eau, il le prend pour un citoyen hébreu, juif comme les autres. Et tout d'un coup, Jean-Baptiste dit ceci, « Quand tu verras l'Esprit Saint descendre sur cet homme, c'est lui le Fils de Dieu, l'envoyé. » Et qu'est-ce qui se passe? Il voit tout d'un coup, c'est son cousin de Nazareth, Jésus, le charpentier. Ben là, et il dit clairement, honnêtement, je ne le connaissais pas. Au sens spirituel, je le connaissais au sens humain. Alors vous, chers amis, c'est la question qu'il faut se poser. À moi comme vous, connaissez-vous Jésus dont on vous a parlé, qu'on parle dans la Bible, au sens humain, au sens spirituel? Y a-t-il en vous une révélation de Christ? Y a-t-il en vous un éclaircissement, une illumination de vos pensées? Une transformation de votre pensée, de votre perception de Jésus, qui fait que vous voyez Jésus comme le Fils de Dieu, et vous y croyez. C'est une grâce immense. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 2, 8, que la foi est un don de Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie. Et c'est une grâce. C'est quoi grâce? Cadeau immérité. Avez-vous reçu des cadeaux à Noël? Certains oui, d'autres pas. C'est des moments difficiles. Je trouve que c'est parfois pénible, Noël et Nouvel An, parce que beaucoup de gens sont seuls, souffrent. Et parfois, ils ne voient pas leurs enfants. Ou il y a des désunions terribles dans les familles, etc. Et c'est parfois un moment de grande souffrance. Mais en général, si une famille fonctionne à peu près bien, on se réunit et on se fait des petits cadeaux. Ou alors si on exagère, de gros cadeaux. C'est inutile, évidemment. Mais ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un cadeau qui vous est donné et qui n'est pas dû à des traditions humaines? un cadeau qui est venu d'en haut en vous. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean chapitre 6. Je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est un autre pain, c'est une autre nourriture. C'est la vie spirituelle en nous, par l'action directe de Dieu le Père pour reconnaître Jésus, son Fils, comme le Fils de Dieu, le Messie, le roi du monde à venir, et qui est déjà là, en plus, agissant. Alors, je reprends ce verset 5, psaume 89, verset 5, « J'affermerai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône à perpétuité. » C'est pour Christ. « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Au ciel, et aussi, si vous aimez vous réunir avec des chrétiens, que vous êtes vraiment unis spirituellement, ça vous concerne, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Lisez Apocalypse, chapitre 4 et 5. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Ainsi, Jésus, par la tempête, sur la mer de Galilée, lorsqu'il l'a arrêté, a démontré qui il était. Vous lisez le psaume 107, vous verrez. C'est Dieu qui arrête la tempête et qui peut la créer. Et vous avez ce récit de la tempête où Jésus, semble-t-il, dort, semble-t-il. Mais est-ce que Dieu peut dormir, les amis? C'est les humains qui pensent. C'est les humains qui pensent qu'il est absent. Mais qui dort. Mais qu'est-ce qu'il fait donc avec tout ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, et il n'intervient pas. Mais je ne peux pas croire en lui. C'est pas possible, je ne peux pas croire en lui. Il laisse tout faire. Et c'est ça que les apôtres disaient dans la barque. Lisez Marc chapitre 4, verset 35, et les versets suivants. Marc 4, verset 35. Verset 11, tu écrasas Rahab, donc l'Égypte, comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras, à la sortie d'Égypte, évidemment. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le nord, donc le septentrion, tous les pays au nord d'Israël, dont Gog et Magog, la Turquie, Gog, et le la Russie, Magog, et les pays du Nord aussi, Kazakhstan, Ouzbékistan, tous ces trucs-là, Syrie, Irak, hein. Mais ce qu'il y a, qui vont envahir Israël bientôt. Ézéchiel 38. C'est à toi qu'appartiennent les cieux, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le Nord et le Midi. Le Midi, c'est le désert du Negev, et puis c'est ensuite l'Égypte, et l'Éthiopie, le Soudan, tout ça. Le Tabor et l'Hermon. Alors, pourquoi parler du Tabor et l'Hermon dans un psaume mille ans avant Jésus? Le Tabor, c'est là que Jésus s'est manifesté en gloire à tous ses disciples après la résurrection. En Matthieu 28, il dit « Allez en Galilée, je vous y précède ». Et on voit que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6, ils étaient plus de 500 frères et sœurs à le voir sur le mont Tabor. Donc, dans Matthieu 28, verset 16, « Allez en Galilée, je vous y précède. » Et ensuite, 1 Corinthiens 15. Maintenant, l'Hermon. L'Hermon, c'est l'endroit où Jésus a été transfiguré, où Pierre, Jacques et Jean, en présence de Moïse et d'Élie, ont vu la gloire de Christ. Et ça, c'est Matthieu 17, verset 11. Ainsi, 1000 ans avant, ces deux endroits glorieux sont déjà désignés pour manifester qui? La royauté de Christ. J'affermerai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône en perpétuité. 89, verset 5. Des signes avant-coureurs de la gloire de Christ sur terre. ce sont ces deux événements sur le mont Hermon et sur le mont Tabor. Et il est mis dans ce verset 13 que le mont Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ça veut dire que tout Israël, parce que c'est en Israël, se réjouissent. Et nous avec, évidemment, de cette royauté à venir. Est-ce que le Covid doit nous dégonfler les pneus, nous mettre le moral à zéro? Mais les amis, il n'y a pas eu de moment plus important au niveau historique que maintenant, que cette décade qui commence. Toutes les prophéties sont quasiment réalisées en vue de la royauté de Christ. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ce qui revient à Exode 34, hein, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le peuple qui marche à la clarté de la face de l'Éternel, c'est le peuple qui est sauvé. Et qu'est-ce que ça a à voir, le son de la trompette? C'est une corne de bélier, presque double, hein, double spirale, dont on a coupé le bout et on souffle dans la corne. Ça s'appelle le chauffard, et le son est assez spécial, et ça, on appelle à la repentance, ou à la bataille. On appelle à la repentance, la fête des trompettes, c'est ça. Et donc, heureux le peuple qui connaît la repentance, la conversion, pour la venue du roi. C'est pour cela que je vous dis, à partir de cette année, honorez le roi, ayez un esprit de repentance, sincère, vrai, actif, engagé, car vous verrez, vous marcherez à la face, dans la clarté de la face de l'Éternel. Et qu'est-ce que dit Jean dans sa première épître, au chapitre 3, je pense, ou 2, lorsque nous le verrons face à face, nous lui deviendrons semblables. Je reprends, psaume 89, verset 17, « Il se réjouit sans cesse de ton nom, il se glorifie de ta justice. » Le peuple de Dieu. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Donc le peuple peut être rempli de la gloire de son roi. L'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Nous allons reprendre un petit peu le Saint d'Israël. Quand Jésus commence son ministère à la synagogue de Capernaum et de Nazareth, après avoir été baptisé, et après que le Saint-Esprit l'ait désigné à Jean-Baptiste et à tout le monde comme le Messie, mais il l'était avant, mais désigné, le faire reconnaître, eh bien, il se présente dans la synagogue pour parler. Il ouvre le livre d'Ésaïe. Et après, il y a des gens qui commence à dire « Tu es saint d'Israël, tu es le Dieu véritable, etc. » Et Jésus est fit taire parce que c'était des esprits impurs. Donc Satan avait reconnu la venue du Messie. Satan voulait rentrer dans le royaume de Dieu avec Christ. Et Jésus n'a pas voulu. Jésus ne veut pas des faux adorateurs envoyés par Satan. Jésus ne veut pas de l'imposture dans son royaume. Alors, faisons attention dans la décade qui vient de commencer. Analysons-nous. Verset 19. L'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, donc Dieu parla à David, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. On pourrait penser que c'est évidemment David, petit berger qui devient roi et prophète. On peut le penser. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. On peut toujours penser que c'est David. Ça a été le cas. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui, sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Là, c'est différent. La mer, c'est évidemment la mer occidentale, Méditerranée, les fleuves, le Tigre, Euphrate et tous les affluents, c'est la Mésopotamie. la puissance éternelle de Dieu, qui est décrite dans d'autres textes de la Bible, et qui s'affermit en Christ, qui se dévoile en Christ. Ézéchiel 39. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et oui, Jésus s'est adressé ainsi à Dieu. Tu es mon Père. Je lui conserverai toujours ma bonté, mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Tous ceux qui sont sauvés sur terre. Hein, et son trône comme les jours des cieux. Je vais un peu plus loin, chers amis, parce que le temps presse, il est presque 7h10, verset 35, verset 34, « Je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Donc Dieu a décidé quelque chose, il ne revient pas dessus. « J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. » Chers amis, tout cela, vous lisez tout le psaume 89, nous désigne la royauté, le Christ roi. La fois prochaine, évidemment, il y aura d'autres textes à lire. Pour ceux qui aimeraient, je vais les citer. Mais pour le moment, avant de terminer, je vous rappelle qu'à la naissance de Jésus, dans Ésaïe chapitre 9, nous l'avons lu, hein, pour Noël, verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » La royauté. On l'appellera admirable, conseiller, conseillant, hein, c'est un... En hébreu, c'est, en grec, c'est en hébreu ici, conseillant plutôt. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donnez à l'Empire, donc à l'œuvre de Dieu, de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, il y a toujours. Le droit et justice, vous avez vu le psaume 45. Dès maintenant, il y a toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous avons lu ce texte. Il est très important. Et je pense que le texte que je viens de lire, les trois psaumes, il prend plus d'expression, d'importance pour vous. Quand vous lisez Michée, ce texte qu'a lu, ont lu les prêtres devant les mages et devant Hérode. Michée. Excusez-moi, j'allais trop loin. Chapitre 5. Michée, chapitre 5. N'oubliez jamais tous ces textes. Ils définissent la route que nous avons. Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata. C'est une parole qu'on trouve dans Luc, chapitre 2, versets 5 et 6. Petit entre les milliers de Judas, donc entre les villages, les petites villes, les bourgades. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, donc le roi, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il est Dieu. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, chers amis, que cette prophétie de ce roi se trouve dans beaucoup d'autres prophètes. Jérémie 31, verset 24, et aussi... C'est un thème majeur pour notre espérance, pour notre foi. C'est quelque chose de certain et assuré. C'est au cœur de la Bible. Pour les temps qui viennent, c'est vital pour affermir notre foi. Je vous conseille de lire. vous, Bastille, c'est ça ? Je vous conseille de lire tout ce qui parle de l'absence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle du roi. Mais il y a des rigolos, il y a des gens qui se foutent de nous parce qu'ils disent « Mais où il est votre Christ ? Où il est votre Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait donc ? Regardez comment ça va. » Alors, l'absence du roi est une provocation pour dévoiler les cœurs. Dans deux sens. Ceux qui ont la foi vont augmenter dans la foi et ne se souilleront plus. Ils vont avancer dans la sainteté et ceux qui se moquent vraiment, qui sont contre, vont se souiller encore plus et seront encore plus injustes qu'avant. Ça, c'est à la fin de l'Apocalypse que c'est bien dit. Mais dans l'absence du roi, il se passe des choses. Je vous invite à lire Luc chapitre 19, versets 12 à 27. C'est pas compliqué. Luc 19, versets 12 à 27, est de le méditer. Je vais prendre d'autres textes après. Évidemment. Et je vous invite à lire Matthieu 22, versets 1 à 14. 22, versets 1 à 14. Et 18, Matthieu 18, versets 23 à 35. À vendredi, que Dieu soit votre lumière, votre paix, votre amour. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand amour pour celui qui a vraiment la foi. Il a un époux, il a un ami, il a un frère, il a un berger, il a un maître, il a un conseiller. Et je vous dis dans le Cantique des Cantiques, cet ami, cet amoureux est formidable. Il y a une description dans le livre des Cantiques qui est formidable. C'est le Christ dans le livre des Cantiques qui est décrit. À bientôt, un vendredi.